R22,
tout monde,
antenne, radio, bois.
Festival Poétesse.
Qu'est-ce qu'une femme poète ?
Histoire, création,
politique.
Et on va poursuivre cette matinée avec un premier panel qui rassemble Noupour Patel et Dina Haribar, qu'on est ravis de recevoir ce matin. Donc merci d'être avec nous à toutes les deux. Là, on va faire un petit saut dans le temps, puisqu'on va partir au XVIe siècle et au XVIIIe siècle, ce qui va nous permettre aussi un peu de mise en perspective temporelle. Et donc, je suis ravie de modérer ce panel qui va commencer par une présentation de Noupour Patel. Et je pense qu'on fera comme d'habitude, c'est-à-dire les deux communications à la suite pour garder un temps plus large ensuite pour les questions et éventuellement recroiser vos deux propos. Alors, Noupour Patel, que je présente tout de suite, est étudiante en troisième année de doctorat à Lincoln College à l'Université d'Oxford. Elle fait des recherches sur le concept de la pudeur et plus précisément, elle s'intéresse aux commentaires sur la pudeur dans les œuvres de quatre écrivaines françaises du XVIe siècle. Elle explore aussi les réseaux de collaboration entre hommes et femmes qui aident les écrivaines à faire imprimer leurs œuvres. Et ce matin, elle va donc nous faire part d'une communication qui s'intitule « L'art de déconstruire la pudeur selon les femmes poètes du XVIe siècle ». Et elle va nous parler de la manière dont la pudeur a pu être l'objet d'une réappropriation par les femmes poètes du XVIe siècle et comment elle peut servir à redéfinir la compréhension des femmes de la Renaissance. Et je lui laisse la parole avec grand plaisir. Merci d'être avec nous, Noupour, c'est quand vous voulez.
Merci beaucoup, Camille. Et tout d'abord, je voudrais remercier les organisatrices du colloque de m'avoir donné l'opportunité d'y participer. Aujourd'hui, je vais présenter une petite partie de ma thèse. Alors, dans sa traduction en 1542 du manuel de Juan Luis Vives, le livre de l'institution de la femme chrétienne, Pierre de Chongy renforce une interprétation sexuée de la pudeur en tant que caractéristique principale de l'identité d'une femme. Vives et Chongy ont déclaré que de tous les traits féminins, et je cite, « le premier et le principal est pudicité, ou de même origine de la pudeur ». Évoluant au fil du temps, la pudeur provient du latin « pudor », qui était d'abord lié à une forme de modestie nettement plus physique, et à la honte. Au XVIe siècle, la pudeur était généralement connue sous le nom de « bonne honte ». De même, les concepts de chasteté et de pudeur sont devenus inséparables. La pudeur n'était nullement un terme stable. Elle reposait sur certaines tensions conceptuelles, notamment la question de sa qualité naturelle ou artificielle. Alors qu'Erasmus a déclaré que la nature exigeait la dissimulation des corps, même dans l'intimité de la chambre, Thomas More, dans l'Utopie, encourage les couples, avant le mariage, à se révéler leur corps nu. De plus, Michel de Montaigne a abordé une autre tension, entre révélé et caché. Dans ses essais, il a noté que la pudeur, tout en visant à voiler quelque chose de nature érotique ou scandaleuse, pourrait paradoxalement dévoiler la même chose. La force de la pudeur est devenu un sujet d'intérêt récent, dévoilant le fil paradoxal de l'impudeur et de la pudeur dans les textes anatomiques de la Renaissance. Dominique Bronchet a montré que la pudeur est un puissant voile pour le médecin pornographe, un voile qui à la fois cache et révèle. Les recherches de Bronchet négligent cependant une représentation différente de la pudeur, qui pourrait redéfinir notre compréhension contemporaine de l'écriture des femmes françaises de la Renaissance. En tant que terme souvent sexué comme féminin et déployé par des écrivains, hommes normalement, la pudeur peut être récupérée différemment. Tamara Harvey, par exemple, a retracé la conceptualisation de la pudeur des femmes écrivains au XVIIe siècle au sein des Amériques, en identifiant en particulier leur mobilisation du corps féminin. Sur la base des recherches de Bronchet et de Harvey, je souhaite découvrir un aspect spécifique de la pudeur en France au XVIe siècle. Historiquement, les femmes écrivains de la Renaissance, y compris les deux dont je parlerai aujourd'hui, ont été encadrées dans le contexte de la voix et de l'identité. Bien que cela ait contribué à faire la lumière sur leur position de la société patriarcale, comme le note Harvey, cela a également encouragé la classification des femmes écrivains dans les catégories de soumises ou de subversives, négligeant ce qu'elle appelle les positions nuancées et complexes de leur expérience. Je cherche à rendre compte de ces nuances en utilisant la pudeur comme catégorie heuristique contre les heurts du duo Merci, Madeleine et Catherine Desroches, qui fera office d'étude de cas. Hôtesse de salon et écrivain prolifique, très admirée à Poitiers, ils ont fait publier les œuvres en 1578, les secondes œuvres en 1583, qui comprennent des odes, des épîtres, des dialogues et des sonnets, et enfin les missives en 1586, un recueil de leurs correspondances et d'autres ouvrages. À différents moments de ces œuvres, les deux femmes utilisent des tropes de la pudeur. Ma présentation se divise en deux parties. Je compare la compréhension de la pudeur au XVIe siècle avec les expériences spécifiques de la pudeur selon les Dames Desroches. J'explore tout d'abord l'expérience de Madeleine. Son ode 6 des œuvres révèle un lien spécifique entre un sentiment anti-protestant et l'impudeur dans son compte rendu local du conflit religieux à Poitiers à la fin du XVIe siècle. Deuxièmement, je me tourne vers Catherine, sa fille. J'examine son association du corps féminin avec le savoir dans l'Agnodice, un texte qui discute de l'Agnodice mythologique qui se déguise en vêtements d'homme pour devenir professionnel de la santé, en particulier de la gynécologie. À partir de cette analyse, mon argument est que Madeleine et Catherine, plutôt que de simplement refléter les notions de la pudeur, elles les testent. Premièrement, dans le cas de Madeleine, sa ferveur catholique et son statut de femme écrivain impudique l'ont amené à détourner l'attention sur les Huguenots. Deuxièmement, pour Catherine, elle lie le corps féminin à l'inspiration intellectuelle plutôt qu'à la honte. Les femmes, les Dames Desroches démontrent la capacité des femmes écrivains à s'approprier la pudeur, à approprier la pudeur pour leur propre intérêt. Si on voudrait réévaluer la compréhension de l'écriture des femmes au début de la Renaissance, on doit prendre en compte les mouvements nuancés que les femmes écrivains, comme les Dames Desroches, font en utilisant la pudeur comme catégorie. Alors, commençons avec Madeleine. Madeleine crée sa propre réponse à la pudeur qui se manifeste d'abord dans le contexte des guerres de la religion. Le lien entre l'impudeur ou la promiscuité des femmes et l'écriture fait des femmes imprimées l'objet d'une surveillance intense. À cet égard, Madeleine détourne l'attention du lecteur de son propre acte impudique d'écrire et d'imprimer ses œuvres pour se concentrer sur les Huguenots impudiques. Elle n'était pas étrangère à la violence locale des conflits religieux entre les protestants et les catholiques en France au XVIe siècle. Poitiers a été particulièrement bouleversé par le siège dévastateur de Poitiers en 1569, qui a causé de nombreuses blessures, des morts, ainsi que la destruction des deux propriétés de Madeleine. Si nous comparons deux exceptions courantes de la pudeur de l'époque, à savoir la honte et la bienséance, Madeleine s'approprie clairement ses points de vue en faisant un lien direct entre l'impudeur et l'impudeur protestante. Kendall Todd, établit que Madeleine s'engage délibérément avec des événements locaux et des repères dans sa poésie. Dans l'ode 6, qui décrit l'impact du conflit à Poitiers sur sa vie et sur d'autres catholiques. Sa cartographie de son corps sur un paysage en ruine est très localisée et violente. Donc, la manière dont elle introduit la violence dans le poème s'avère particulièrement intrigante et s'adresse d'abord à un ou plusieurs interlocuteurs inconnus et répond à l'hypothèse qu'il est une fontaine de jouvence. Donc, Madeleine dénonce brusquement cette caractérisation et elle introduit divers contextes pour illustrer la façon dont la vie l'a débarrassée de joie, faisant allusion à des figures mythologiques et à des animaux dangereux qui l'ont tourmentée. Puis elle change l'atmosphère et elle écrit, je cite, « Quand le tourment domestique qui blesse dans la maison aurait pillé ma raison, quand le repos public. » Donc Madeleine divise astucieusement l'attention poétique sur les conflits religieux. Ramenant la mythologie et la réalité, elle met en valeur la violence qui a lieu à sa porte. La métaphore d'une maison est importante. Donc elle se compare à une maison enfermée dans la sphère privée. La notion de pillage fait référence à des raids iconoclastes protestants et suggère également que la violence a eu un impact significatif sur son esprit. Donc, le contraste entre les couplets qui riment, entre domestique et public, lui permet d'entendre son expérience personnelle sur la scène publique. Donc, c'est également une arme de déviation pour comparer son corps puisé à celui de la France entière, qui est un autre corps. Donc, faisant appel au genre de récit des témoins, elle note que, je cite, « Devant nos yeux, les Huguenots ouvertement violent les saintes lois de la foi catholique. » Et elle crée une communauté de collaboration personnelle avec ses lectures catholiques supposées, concrétisées par des mots d'adresse de « vous » et de « nous ». Et ce faisant, elle reste dans les normes de la pratique sociale et religieuse, tout en repoussant ironiquement les limites, excuse-moi, en tant que femme impudique, exprimant son zèle. Donc le terme violée est particulièrement puissant car il présente une force physique de la part des Huguenots. Il fait également allusion à l'agression sexuelle qui à la fois renforce la nature pécheresse des Huguenots et entend une relation somatique entre la ville, les bâtiments, le corps politique et son propre corps féminin. L'attention de Madeleine à la violence est montrée dans sa discussion sur la contamination. Donc, dans l'autre 6, Madeleine affirme avec audace que les Huguenots réussissent à s'aimer la contagion, plaçant la France dans un état de maladie incurable, de la même manière que la maladie suit le corps. Donc, elle puise dans le corps physique et apporte une seconde réponse à ces mêmes corps, transformer la France en chair humaine. Donc, elle combine l'écriture protestante, le discours et l'action et soutient qu'ils sont tous les mêmes. Ils ont transformé la France en un corps incurable, qui a également épuisé le propre corps de Madeleine. Donc Madeleine apporte un nouveau sens au corps pudique. Au lieu de souligner sa chasteté ou sa pureté, elle présente sa violation. Donc, comme le montrent clairement les célèbres gravures de Jean Perrissin et de Jacques Torterel dans leur collection Les 40 tableaux, la violence et les images de corps nus, y compris des femmes portant leur sein, sont devenues une partie intégrante des guerres d'impression pendant cette période. Donc cela suggère que la violence religieuse a ouvert une faille dans les lois régissant la représentation commune du corps. Donc elle permettait d'écrire explicitement la brutalité physique comme un outil de propagande Donc, on peut trouver des similitudes remarquables entre l'œuvre de Madeleine et les 40 tableaux. Par exemple, les deux sont des représentations très graphiques de cadavres dans les zones inondées de Poitiers. Et nous voyons la violation des corps nus et beaucoup de violence. Les ressemblances frappantes de la violence apparente dans les œuvres de Madeleine et les gravures de Tortuelle et Périssin soulèvent la question de savoir si Madeleine s'engage délibérément avec la culture visuelle contemporaine. Donc, bien qu'il ne soit pas certain que Madeleine soit explicitement au courant des gravures, ainsi que des œuvres d'autres sympathisants protestants, il semble hautement probable que Madeleine ait ses images et ses discours déjà en tête. Mais au lieu de soutenir ses œuvres diffusées, Madeleine est en concurrence avec elle. Après tout, les gravures de Tortuelle et Périssin, surtout sans aucun doute de temps pro-protestant, et Madeleine n'est pas une voix seule dans son zèle catholique, mais elle est une voix inhabituelle pour retravailler ses images protestantes. Donc, ce faisant, elle joue un jeu astucieux de réclamation et de récupération des lieux communs pour détourner l'attention de son propre acte impudique d'écrire. Donc, Otis va encore plus loin dans sa seule allusion à un corps féminin. Et c'est potentiellement la révélation la plus forte de l'impudeur protestant. Donc, Madeleine affirme ravir la Vierge Vestale, violer son chaste vœu, vomir l'impudique feu. Madeleine ne pouvait pas être plus grossière dans sa suggestion que les protestants ont violé l'exemple le plus pur d'une femme pudique, c'est la Vierge Marie. Donc, ici, la Vierge englobe toute une gamme d'images violente familiale dans les conflits religieux, donc le viol des religieuses, la profanation du corps féminin et l'attaque de la France en tant que terre catholique sacrée. Dans le corps virginal s'étend donc au corps politique et le terme de Madeleine violée est renforcé ici. Donc elle soutient que violer un corps, la foi catholique ou même la France est de tout de même. Donc, si nous alignons cela avec son récit du corps comme un bâtiment en ruine, un réseau très chargé émerge de bâtiments de corps de la foi catholique et de la terre. Donc, le poème est une image complexe d'une sueur globale de la France. Donc, détournant l'attention de sa propre écriture impudique, Madeleine nous fait boucler la boucle. Donc, elle termine son ode 6 en contemplant la même question qu'elle pose au début de l'ode. Pensez-vous encore que je suis une fontaine de jouvence? Et donc, ode 6 démontre la dévastation de divers corps, comme j'ai dit, les bâtiments, femmes violées et corps politiques de la France. Par ses propres moyens impudiques, elle réoriente la compréhension commune du corps pudique et de sa violation persistante dans le contexte des guerres civiles religieuses. Donc, elle dépuie son corps féminin, pudeur, et le transpose sur tous les corps français qui ont souffert aux mains des protestants, selon elle. Donc, si des connotations du type idéal sont conservées dans les l'autre, sont utilisées comme armes contre les Huguenots qui, selon Madeleine, démontrent un manque de pudeur. Donc, dans cette exploration de l'ode de Madeleine, nous constatons donc qu'elle conteste en tout cas la compréhension du corps féminin au XVIe siècle et renégocie les termes de sa propre impudeur. Donc, passons maintenant à Catherine. Dans le cas de Catherine, sa réponse spécifique à la pudeur est un engagement avec la honte et l'érotisme féminin qu'elle bafoue plus tard. Donc, en tant que femme érudite, elle était consciente de la suspicion générale envers l'éducation des femmes au début de la Renaissance. Donc, elle était perçue comme monstrueuse, contraire à la nature, d'une façon. Donc, en réponse à ce point de vue, Catherine établit un lien entre le corps féminin et la connaissance, le savoir, et récupère le corps féminin pour les femmes dans sa poésie. Donc, dans la notice, Catherine dévoile une expression très individuelle de la condition du corps féminin en ce qui concerne l'accouchement. Donc, elle participe à un processus de discours traditionnellement patriarcal en fonction de ses propres intérêts. Donc, la connaissance constitue un aspect important de la vie de Catherine et le devant de la scène dans l'Agnodice. Donc, dans ce camp, basé sur celui de Gaius Julius Hyginus, la figure allégorique d'envie encourage les maris à priver leurs épouses de la connaissance, notamment de gynécologie. Donc, en conséquence, les femmes refusent de dévoiler leur corps nu à des médecins et par conséquence, ils souffrent de maladies. Donc, par la suite, Agnodice se déguise en vêtements d'homme pour apprendre la médecine et soigner ses femmes. Donc, Kendall Todd a fait valoir que l'Agnodice est une allégorie du rôle de Catherine dans la société des salons. Donc, en accord avec cela, je trouve des traces du salon Poitevin local de Catherine et de sa mère, ce qui, selon moi, lui permet de créer un salon fictif et idéal dans lequel la vie savante des femmes peut s'épanouir. Donc, la révision par Catherine de l'histoire originale est source de réflexion, surtout pour son traitement de relations entre les femmes et la connaissance de leur corps. Donc, Catherine établit d'abord les spécifications communes de la pudeur du XVIe siècle, encourageant les femmes à maintenir la pudeur féminine. Donc, dans son poème, c'est la peur de la honte des femmes qui les empêche de consulter un médecin. Donc, je cite, « Aimant trop mieux mourir que d'être peu honteuse, ils souffrent en silence. » elles souffrent en silence, les femmes. Donc, depuis qu'on vit, ils ont empêché de connaître leur propre corps, leur seule option est de révéler leur corps à des médecins, ce qui est contre code de la pudeur. Donc, comme l'a montré Kellett Wynn, le respect de la tradition et des tabous de la pudeur a alimenté le feu des débats déjà intenses au début de la Renaissance sur les interactions entre les médecins et les patients pendant l'accouchement. Donc, cette idée provenait en partie de l'angoisse d'exposer les femmes au regard masculin, provoquant la perte de la pudeur. Donc, en remettant en cause l'hypothèse que la pudeur est louable, Catherine bafoue ouvertement ces normes acceptées dans l'Agnodice. Donc, on voit qu'elle joue avec les discours masculins et transgresse leurs conventions. Donc, elle parodie non seulement les discours masculins de la pudeur de l'intérieur, mais elle s'y oppose et les transcende également. Donc, cet objectif est atteint en soulignant que la pudeur et le manque d'éducation des femmes ont entraîné les conséquences désastreuses d'une mauvaise santé. Donc, la pudeur féminine ne devient plus une exigence positive de la nature, mais plutôt les conséquences culturelles de l'anxiété masculine entourant la supériorité possible des femmes de la connaissance. Donc, la pudeur devient un outil patriarcal qui limite donc, le pouvoir des femmes. Et au-delà, les femmes n'osent plus se mêler. Au lieu de cela, elles se replient pour rentrer dans leur propre espace privé et isolé. Donc, le comportement désagréable d'envie, l'allégorie, provoque la chute des femmes, encourageant l'éclatement d'une communauté de femmes. Donc, l'esprit et le corps sont donc liés. Pour qu'une femme ait un corps sain, elle doit également avoir un esprit sain. Donc, consciente des limites de son corps féminin, Agnodice, alors, qu'elle propose de changer cette situation, elle devient une figure androgyne. Donc, cachée derrière des vêtements masculin. Elle entre dans le domaine de la médecine pour guérir plus tard le corps des femmes. Donc, avec cette histoire, Catherine remet en question la perception monstrueuse des femmes savantes comme indisciplinées dans la société française. Donc, les femmes deviennent plus saines et plus vertueuses dans la société grâce à ce renouvellement de la connaissance. Donc, la Nudis fait un certain nombre d'observations importantes sur la nature de la pudeur. Donc, ceci est introduit en imitant d'abord les opinions communes de l'époque. Donc, à un moment donné, Catherine décrit les seins d'Anudis comme, je cite, « blanche pomme ronde ». Donc, ces mots ressemblent à la tradition blason, poétique, dans laquelle un poète consacre des vers à une partie spécifique du corps d'une femme bien-aimée, par exemple, comme le blason du beau d'état de Clément Marot, dans sa comparaison de tétine de sa bien-aimée aux cerises. Donc, les seins d'Agnodis évoquent le fruit interdit, donc un plaisir érotique qui plaît au regard phallocentrique. Donc, en se déshabillant devant les hommes, Agnodis dévoile une vierge rougère, donc baisant les yeux pleins d'honneur et d'honte. Mais cela est remis en question lorsque nous comparons cela avec l'exposition d'Agnodis à ses concitoyennes, pour les convaincre qu'elle peut les guérir. Donc, les femmes l'admirent et son premier rougissement disparaît. Donc, son corps représente la confiance pour eux et dans ce contexte, les autres femmes ne ressentent plus la honte. Donc, je cite, « Elles baissèrent mille fois sa bouche et son sein, recevant le secours de son heureusement. » Donc, cela suggère que la pudeur est essentiellement une forme de contrôle social. Et ce n'est donc pas la nature qui impose la pudeur, mais plutôt les angoisses des hommes qui dictent injustement l'identité d'une femme. Donc, Catherine démontre qu'il est possible, voire acceptable pour les femmes, de récupérer leur corps de manière positive. Et l'exposition nue d'Agnodis est la clé du rétablissement d'une communauté de femmes de la santé et du bien-être collectif. Donc, son autorité en médecin soulève également la question de la connaissance par une femme son propre corps fertile. Donc, elle substitue la profession de sage-femme à la maternité. Et à cet égard, elle établit le sentiment de la femme de son propre corps pendant l'accouchement comme lieu de connaissance. Et elle soutient la capacité des femmes à conceptualiser leur corps reproducteur. Et aux côtés des Catherine, elle reflète l'autorité d'écrire sur le corps féminin. Donc, Catherine et Agnodis discutent ouvertement de l'accouchement et facilitent donc l'acte lui-même. Donc, elles participent au discours maternel et en tant que modèle rôle qui guide les mères, elles deviennent des mères d'honneur pour les femmes. Donc, je vais juste conclure. Tout au long de cette présentation, j'ai utilisé les Dames de Roche comme étude de cas pour montrer comment certaines femmes transgressent les limites des discours patriarcaux pour s'approprier la pudeur. Donc, Madeleine et Catherine développent un engagement avec la catégorie de la pudeur, la privant de son pouvoir et la réformulant pour leur propre usage. Donc, leurs œuvres sont une illustration puissante de la représentation féminine dans les limites de la société. Donc, ils montrent la régulation masculine de la pudeur dans la société du XVIe siècle, au moins, peut fonctionner en théorie, mais pas nécessairement en pratique. Donc, en utilisant la pudeur comme catégorie, peut-être nous pouvons certainement relier cette idée à d'autres femmes écrivantes de l'époque. Donc, comme je l'ai montré, la pudeur peut dénicher un nouveau ensemble de mouvements que les femmes écrivantes comme les Dames des Roches font pour comprendre leur position circonscrite. Et si nous l'utilisons comme un outil pour penser à d'autres femmes écrivaines, nous pouvons reconfigurer notre compréhension du sexe dans les premières sociétés modernes. Donc, pour cette seule raison, nous devons explorer plus avant les implications de la pudeur au XVIe siècle en laissant plus de place aux femmes écrivaines pour présenter un éventail plus large de réponses créatives aux conditions culturelles dominée par les hommes dans lesquels elle vivait et travaille. Merci.
Merci beaucoup, Noupour, pour ce propos vraiment passionnant sur tout ce que vous avez dit sur le corps comme enjeu politique déjà au XVIe siècle et cette remise en question de l'injonction à la pudeur qui est... Enfin, c'est vraiment des discours précurseurs qu'il est tout à fait passionnant de découvrir. Je vais passer la parole tout de suite à Dina Ribar pour qu'on puisse ensuite garder un temps pour les questions. Alors, Dina Ribar est directrice d'études à l'EHESS. Ses recherches portent notamment sur le travail et l'action avec l'écriture entre époque moderne et début de l'époque contemporaine. Récemment, elle a publié une présentation de « Qu'est-ce qu'un auteur ?» de Michel Foucault. Donc, 1969, Michel Foucault et la question de l'auteur. « Qu'est-ce qu'un auteur ?» texte, présentation et commentaire chez Honoré Champion. Sur la poésie, particulièrement, elle a publié 3 articles. Le premier, « Ce que fait la littérature, poésie et histoire des mondes ouvriers dans les cahiers d'histoire » en 2018. Un second article avec Marion Carrel, « L'acte de témoigner » dans « Antares, Letras et Humanidades » en 2019. Et enfin, « L'ordre social en littérature » 1644, le premier poète ouvrier dans « Agone, histoire, politique et sociologie » en 2019 également. Son exposé d'aujourd'hui s'intitule « À une dame ou soi-disant-elle, la femme poète comme révélateur » et a pour but d'observer ce que cela signifiait d'être une femme poète au XVIIIe siècle à partir d'une étude de cas tout à fait particulière que je lui laisse vous faire découvrir et je vous passe la parole tout de suite quand vous voulez.
Alors, merci beaucoup de cette présentation. Alors, je voudrais moi aussi remercier les organisatrices de m'avoir invité et aussi de m'avoir permis de retravailler un cas sur lequel je travaille depuis plusieurs années et de l'approfondir dans la perspective de cette réflexion sur les femmes poètes. Donc je vous remercie beaucoup pour ça. Alors comme dans le cas de Noupour, ça va être un exposé un peu je sais pas érudit qui plongera dans le passé. Alors n'hésitez pas dans la séquence d'après à poser aussi des questions d'information. Juste pour dire que je lis mon exposé, enfin je lis ce que j'ai écrit sur mon écran. Donc je ne pourrai pas lire les commentaires pendant la partie de la discussion où je parlerai, mais bien sûr je lirai après. Alors voilà, alors un cas tout à fait particulier en effet, hein, puisque la femme poète dont je vais parler aujourd'hui était un homme, ou en tout cas a avoué par écrit au bout d'un moment qu'elle était un homme. Pour le dire autrement, hein, cet homme a écrit l'histoire de la femme poète qu'il avait été. Donc la femme poète du XVIIIe siècle dont je vais parler était un homme, elle n'en a pas moins été une femme poète reconnue et célébrée comme telle. Pendant un certain temps, une femme poète publiée, insérée dans des échanges avec les autres poètes dont la grammaire était celle de la séduction. Et je m'efforcerai de montrer, c'est le point central de mon exposé, hein, que l'avoir été a aussi permis à ce poète, une fois redevenu un homme poète, d'écrire dans ses poèmes et également dans ses textes en prose un désir d'être femme, un désir de liberté pour les femmes, une ambiguïté sexuelle marquée, ou encore l'amour éprouvé pour un ami. Donc le fait d'avoir été une femme poète lui a permis d'écrire des choses que sa poésie légère, et qu'on pourrait dire professionnelle, ne programmait pas. Autour de ce poète qui a été une poétesse, on le verra aussi, les femmes poètes se sont multipliées, et la main féminine qui, matériellement, rédigeait les textes de la poétesse pour ne pas découvrir l'homme qui se cachait derrière elle, a été aussi hein, sortie de l'invisibilité, désignée comme la main d'une personne pourvue d'un nom, de traits de caractère, d'une histoire à elle. Il est apparu que derrière la poétesse, il y avait un homme, mais aussi au moins une femme. Le travestissement de Paul Desforges-Maillard, alors c'est le nom de ce personnage, hein, Paul Desforges-Maillard, il était né en 1699 et il est mort en 1772. Le travestissement de Paul Desforges-Maillard, donc, n'a pas seulement été un calcul visant le succès littéraire, n'a pas seulement été une stratégie de contournement, un moyen de se distinguer et d'être distingué par les prescripteurs du goût des lecteurs. Après avoir cessé ce travestissement, il est devenu pour Desforges-Maillard une ressource, un sujet sur lequel écrire et réfléchir, un moyen d'action. Il lui a aussi il a aussi, ce travestissement, révélé des féminités poétiques qui en font autre chose qu'une supercherie socialement efficace, puis intellectuellement, ou disons sociopolitiquement, ravageuse. Alors, je vais essayer de déployer ces éléments dans mon exposé. Alors, Desforges-Maillard, il a commencé à publier des poèmes dans les journaux de son temps, comme homme. Donc, au départ, c'est un auteur homme. Dans les années 1720, le Mercure de France, c'est-à-dire un périodique, un mensuel, hein, qui était le lieu de publication d'une bonne partie de la production poétique du temps, le Mercure de France, donc, a accueilli plusieurs de ses poèmes, signés de son nom, Desforges-Maillard, en tant qu'homme, hein, par Monsieur Desforges-Maillard. Donc, en tant qu'homme, en tant que l'un des nombreux hommes de la bonne société, notamment non parisienne, qui publiait dans le Mercure. Donc, l'un des nombreux hommes de la bonne société non parisienne, hein, puisque Desforges-Maillard vivait en Bretagne, il vivait au Croisic, dont son père avait été le maire. Hein. Sa famille, c'était une famille de notables, et lui-même a eu une carrière dans l'administration fiscale. Donc, au départ, c'est l'un des nombreux hommes de la bonne société qui publiait occasionnellement de la poésie dans les journaux. Le Mercure de France et d'autres journaux aussi, par exemple le journal Le Verdun. Comme nombre de ces hommes de la bonne société qui publiaient de la poésie dans les journaux, de manière occasionnelle, il avait écrit des vers pour louer Voltaire. C'est par une défense de la Henriade, hein, le grand poème épique de Voltaire, qu'il avait débuté. Les choses changent en 1730, bien que Desforges-Maillard, avec qui Voltaire avait entamé une correspondance évidemment très valorisante pour lui, et continué après cette date à faire paraître des poèmes dans le même journal. Donc il a continué à faire paraître des poèmes signés par M. Desforges-Maillard dans les années 1730. Mais les choses changent en 1730 parce qu'à cette date, Desforges-Maillard est mal reçu, raconte-t-il dans un très long texte, un texte qui s'intitule « Préface et mémoire historique de l'auteur » et qui apparaît en tête de l'édition de 1759, donc bien plus tard, hein, de ses œuvres en vers et en prose. Alors c'est un texte de plus de 50 pages, hein, donc un texte très long, préface et mémoire historique de l'auteur, où il raconte son histoire. Donc il raconte qu'en 1730, il est mal reçu lorsqu'il essaye de faire publier dans le même Mercure de France une satire contre l'Académie française. En effet, il avait échoué au prestigieux concours de poésie de cette académie, alors que son poème qui portait sur la navigation, c'est le sujet du concours, sur lequel Desforges-Maillard s'estimait manifestement spécialiste. Il cite quelques vers de ce poème, en effet intéressant, dans son récit. Quelques vers qui portent sur la navigation comme écriture. Donc, ayant échoué à ce concours de poésie, alors que son poème, selon lui, méritait le succès, il avait entrepris de dénoncer l'Académie française et le poème qu'elle avait couronné, pas le sien donc, dans un texte que le directeur du Mercure de France, qui s'appelait Larocque, avait refusé. Et non seulement refusé, il l'avait jeté au feu. Voilà. Alors, en fait, ce texte lui avait été apporté à Larocque par un intermédiaire, peu importe son nom, et cet intermédiaire avait protesté, une querelle s'en était en suivie, hein, pas une querelle où Desforges-Maillard n'était pas là, c'était entre l'intermédiaire et Larocque, mais le résultat, c'est que ça s'était soldé par une décision très brutale de Larocque, hein, la décision de ne plus jamais publier du Desforges-Maillard dans son journal. Voilà. Alors, raconte Desforges-Maillard, hein, il se serait résolu à tromper Larocque. Voilà. Il se serait résolu, puisqu'il ne pouvait plus publier dans le Mercure de France, à tromper Larocque en se faisant passer pour une femme. C'est-à-dire en envoyant des poèmes écrits par une amie, écrits c'est-à-dire notés, hein, écrits par une amie, une parente aimée, une amie et parente aimée. Et je dis ça parce qu'il précise beaucoup de choses sur cette femme. Hein. C'est la main féminine dont je parlais plus haut. Il dit que cette femme avait voulu être sa secrétaire, c'est le terme qui s'emploie, et il montre qu'elle a été l'une des actrices de l'affaire. Hein? Donc, il s'était résolu à envoyer à Larocque des poèmes notés par cette amie, afin que son écriture à lui ne soit pas reconnue, puisque Larocque connaissait son écriture, puisqu'il lui avait déjà envoyé des poèmes. Hein? Donc, des poèmes notés par cette amie sous le nom de, sous un nom de femme, le nom de Mademoiselle de Malcré de la Vigne. Mademoiselle de Malcré de la Vigne, d'après le nom d'une pièce de terre, une pièce de vigne, qui appartenait à sa famille. Donc, Malcré, M-A-L-C-R-A-I-S, de la vigne, d'après cette pièce de terre. Alors, je dis ça hein, parce que cela veut dire que ce pseudonyme féminin, c'était aussi un nom de terre. Hein. Je dis ça au passage, un nom de terre, c'était un de ces noms que les enfants de bonne famille, et parfois aussi les écrivains, prenaient sous l'Ancien Régime pour avoir l'air noble, hein, au lieu de porter leur nom, parce que ça, c'est avec un « de ». Oui, donc ça, on appelle ça un nom de terre, quand ils étaient propriétaires d'une, d'une terre. Et on sent, en fait, je dis ça parce qu'on sent en lisant ce passage du récit que Desforges Maillard a écrit sur l'histoire de la poétesse qu'il avait été, ou plus exactement, ce passage des récits qu'il a écrit sur cette histoire. Alors, je dis ça parce qu'en fait, je parlais jusqu'ici d'un récit publié en 1759, mais en fait, une première version de ce récit avait paru en 1741. Une première version beaucoup moins, très différente, et surtout beaucoup moins critique. Ça avait paru donc en 1741 dans ce qu'on pourrait appeler une revue, un périodique qui s'appelait Les Amusements du cœur et de l'esprit. Donc un périodique où paraissait pas mal de littérature de l'époque. Hein. Par exemple, Les Égarements du cœur et de l'esprit de Crébillon sont parus dans Les Amusements du cœur et de l'esprit. Hein. Et donc ce récit était paru sous le titre de Lettre à Monsieur de B. 3 étoiles sur les poésies qui ont paru sous le nom de Mademoiselle de Malcré de la Vigne. Et sous celui, c'est-à-dire sous le nom, de la nymphe de la mer, métamorphosée en berger du pays d'Astrée. D'accord ? La nymphe de la mer, métamorphosée en berger du pays d'Astrée. C'est un peu long tout ça. Hein. Donc, ce récit, c'est une lettre anonyme, c'est en forme de lettre, hein, une lettre anonyme à un correspondant anonyme, mais elle est datée du Croisic en Bretagne, le 29 de décembre 1736, et elle porte donc cette lettre sur une métamorphose, je cite Desforges Maillard là, une métamorphose dans laquelle le hasard avait fait entrer un peu de littérature, une métamorphose qu'il pourrait, écrit-il, développer pour en faire un roman plutôt qu'une lettre, c'est les termes qu'il emploie, une métamorphose, une supercherie, hein, qu'il n'avait manigancé, écrit-il donc vers 1740, 1736 ou 1741, qu'il n'avait manigancé que dans l'intention d'amuser le public et de lui plaire. Hein, donc, on a une première version qui dit qu'il avait voulu simplement amuser le public et lui plaire, et une deuxième version où il dit qu'il avait voulu tromper Larocque pour se venger de de son refus de publier sa satire contre l'Académie française. Mais quoi qu'il en soit, hein, je reviens sur mon histoire de nom de terre, on sent en lisant les passages de ces deux récits, celui de 1741 et celui de 1759, sur les origines de Mademoiselle de Malcré de la Vigne, on sent que Desforges Maillard a aussi voulu écrire quelque chose qui fasse réfléchir, deux récits, hein, qui fasse réfléchir sur le caractère manipulable des rapports sociaux, hein, sur les noms de terre par lesquels on peut se faire passer pour noble, sur les noms qu'on prend, sur les mensonges de l'identité. On sent qu'en 1741, il a voulu écrire avec Mademoiselle de Malcré de la Vigne, pour le dire autrement, hein, quelque chose comme une variation sur le paysan parvenu et sur la vie de Marianne de Marivaux, paru respectivement en 1734-1735 pour le paysan parvenu et à partir de 1731 pour la vie de Marianne. Hein, on sent qu'il a voulu, en 1741, publier une variation susceptible de confirmer, de prouver qu'il était bel et bien un écrivain de talent. Voilà, hein, il a fait ressource en 1741 de son histoire de poétesse pour montrer qu'il était un écrivain de talent capable de faire un roman à la Marivaux sur les mensonges de l'identité. Après, en 1759, il a repris cette question des mensonges de l'identité sur un mode beaucoup plus critique. Quoi qu'il en soit, hein, aussi bien en 1741 qu'en 1759, on apprend que Malcré, en fait, non, c'est en 1741 qu'on l'apprend, on apprend que c'était d'abord un nom Malcré, hein, qu'il avait proposé de prendre à sa jeune sœur Thérèse, âgée de 12 ans. Il lui avait dit que, ben voilà, elle pouvait prendre ce nom pour s'en servir dans ses relations avec les hommes, dans ses relations de galanterie avec les hommes. Hein. Et au refus de Thérèse, il s'était, dit-il, emparé de ce nom dont elle ne voulait pas, hein, de ce nom qui était prévu pour une fille de sa famille. Voilà. Quoi qu'il en soit, hein, donc ce travestissement, qui est un travestissement compliqué, vous voyez, avec un nom qui devait circuler entre femmes et hommes, qui a circulé entre femmes et hommes de sa famille, ce travestissement est un succès. Mademoiselle de Malcré de la Vigne plaît à La Roque, pique son intérêt, fait bientôt de lui un impresario enthousiaste de celle qu'il appelle la muse du Croisic, dont il se met à publier les poèmes en grand nombre, livraison après livraison, du Mercure de France. Alors cela, alors même que, je l'ai dit tout à l'heure, hein, que quelques pièces signées d'Eforges-Maillard y paraissent aussi dans la même période. Vous voyez, dans les mêmes livraisons du mensuel, vous avez des poèmes de Mademoiselle de Malcré de la Vigne et des poèmes de d'Eforges-Maillard. Alors ça veut dire que, vous voyez, l'exclusion prononcée en 1730 par La Roque n'était pas si radicale que ça, hein, mais ça signifiait aussi que La Roque n'était pas capable de reconnaître à les lire que le poète et la poétesse étaient la même personne, alors même qu'ils prétendaient faire fonction de lecteurs compétents et de garants de la qualité de la poésie offerte au lecteur de son journal. Ou plus exactement dit, hein, une fois que cela a été écrit, en 1741 et en 1759 plus explicitement encore, l'affaire signifiait que La Roque n'avait pas été capable d'être ce bon lecteur qu'il prétendait être, ni lui, ni personne. Je dis, c'est comme ça que ça devient en 1741, parce qu'en 1730, il me semble que cela signifiait d'abord que cette poésie des journaux n'était pas lue comme une production d'auteur, qu'elle n'avait d'auteur en réalité que lorsque les individus réels qui la produisaient étaient connus des journalistes, personnellement, ou du fait de leur position sociale. Hein, c'est de cela que la femme poète est le révélateur en 1730. Mais en 1741, il révèle que le garde-barrière de la littérature, si vous voulez, n'est pas un bon lecteur en réalité. La Roque, dans cela, n'était pas seul en cause, parce qu'à sa suite, un bon nombre des poètes du Mercure de France s'étaient investis dans la promotion de la nouvelle muse, qui était devenue l'une des vedettes du mensuel. Une quarantaine de pièces ont été adressées à Mademoiselle de la Vigne via le Mercure, c'est-à-dire publiées dans le Mercure. Un bon nombre de poètes s'y sont fait piéger, et pas n'importe qui, puisqu'un poème de Voltaire, intitulé « Épître à une dame », paraît dans le Mercure en 1732, en réponse à une épître flatteuse, une lettre en vers, hein, de Mademoiselle de la Vigne. Donc voilà, hein, la poétesse bretonne, ça marche. Lointaine, mystérieuse, elle permet le déploiement d'interactions galantes autour, par exemple, de coquillages, soi-disant envoyés à La Roque, capable de vers légers et ironiques, et en même temps savante, elle fait écrire, elle suscite les hypothèses et les questions. Alors, j'ai parlé tout à l'heure, hein, de supercherie socialement efficace. Le succès de Mademoiselle de Malcré de la Vigne dans le Mercure de France a déterminé un changement de catégorie de sa poésie. En 1735, cette poésie paraît en recueil chez un éditeur parisien. Elle devient une œuvre. Les poésies de Mademoiselle de Malcré de la Vigne, c'est le titre du recueil, hein, intègrent en bonne place l'épître de Voltaire à Mademoiselle de Malcré de la Vigne, en lui envoyant la Henriade et l'histoire de Charles XII, roi de Suède, deux de ses ouvrages. Alors, il y a aussi une réponse à Voltaire, hein, qui est juste après, hein, et c'est une réponse extrêmement ironique, qui mêle des vers et des proses, et où il est notamment écrit que si on dédaigne la qualité de ses vers, eh bien, Mademoiselle de la Vigne déclare qu'elle répondra désormais, je cite, « Esprit fait dans un méchant moule, demandait à Voltaire, à ce fameux auteur, il sait comment ma veine coule et si mes vers sont sans valeur. Marchand d'oignons se connaît en ciboule. » Ouais, c'est le ton. Est-ce qu'il se connaît tant que ça en ciboule, ce marchand d'oignons, hein? Alors, le poème de Voltaire, il part d'un portrait très favorable de la nouvelle poétesse, dont il dit qu'elle combine les talents de déhoulière et les études de Dacier, c'est-à-dire Madame Dacier, hein, Déhoulière et Dacier, c'était deux autrices du XVIIe siècle, et vous voyez que donc, la nouvelle poétesse, elle combine l'art de Déhoulière et la science de Madame Dacier, hein, comme il convient au siècle des Lumières. Donc il fait ce portrait-là, Voltaire, pour en redéployer les éléments de manière à faire apparaître la figure moderne du poète, alors qu'il incarne bien sûr lui-même. La figure moderne du poète, c'est lui, poète et savant, poète et philosophe, exemplaire éminent d'une dignité intellectuelle supérieure. Alors, une fois que la supercherie a été dévoilée par des forges maillards à la suite d'un voyage à Paris, Voltaire a coupé les passages galants de son épître pour sa publication en recueil. La version définitive du poème ne conserve qu'une brève motivation de sa prise de plume, hein, et une adresse, souvenir que je trouve un peu aigre, qui est le titre de ma communication, à une dame, ou soi-disant elle. Alors, par ailleurs, hein, Voltaire et Desforges-Maillard avaient échangé des lettres aimables après la révélation de l'identité masculine de Desforges-Maillard, parce que Voltaire avait choisi de ne pas se dédire sur les qualités d'écrivain de la poétesse du Croisic, redevenu le poète du Croisic qu'il connaissait déjà. Il restait que Desforges-Maillard avait bel et bien démontré, en s'insinuant au cœur de l'institution littéraire, que le pouvoir de donner ou de refuser à des écrits et à leur auteur une existence publique ne reposait sur l'exercice d'aucune véritable compétence. Et il avait démontré le caractère aisément manipulable du jugement critique, si souvent opposé au poète amateur. Ce jugement dont le jeu de l'épître à une dame ou soi-disant elle prétendait incarner la perfection. Alors, en 1738, le scénario fourni par Desforges-Maillard, certainement parce que Voltaire en faisait partie, était intégré à l'intrigue d'une pièce de théâtre qui fit événement, la Métromanie de Piron. À la Métromanie, ça raconte comment un poète devient amoureux d'une poétesse de Quimper Corentin qu'il ne connaît pas, hein, qu'il ne connaît que par le journal, au point de vouloir l'épouser. Et il découvre tout d'un coup que cette poétesse n'est autre qu'un poète chez qui il habite. C'est un homme chez qui il habite, qui est un homme très bien, sous tout rapport, sauf qu'il a la rage de faire des vers en amateur, c'est-à-dire de mauvais vers. Hein, en 1759, dans son texte de 1759, Desforges-Maillard affirme qu'il avait bien compris que cette pièce signifiait pour lui que sa poésie n'était pas bonne, que c'était une poésie d'amateur, hein, même si elle montrait que le poète de profession était trompé par l'amateur, par ce métromane. Mais entre-temps, il y a un autre événement qui l'a atteint encore davantage, qui est que peut-être à la suite du coup d'éclat de la métromanie, hein, ou plus probablement parce que Desforges-Maillard, une fois installé à Paris, une fois redevenu un poète homme assez lancé, fréquentait manifestement ses ennemis, les ennemis de Voltaire, hein, de nom ici, Fréron et Titon du Tillet, Voltaire il s'est mis à ajouter à son épître à une dame ou soi-disant elle une note explicative qui est un récit très désobligeant et qu'il associe à partir de 1748 à un poème qui a été de multiples fois réédité. Je lis ce récit. En 1732, il y eut un homme de Bretagne qui s'avisa d'écrire des lettres à plusieurs gens d'esprit de Paris sous le nom d'une femme. Chacun y fut attrapé et cette méprise attira cette réponse. Vous voyez qu'il y a un dédain là énorme pour un homme de Bretagne qui n'est même pas nommé, qui n'est même pas présenté comme un poète, alors que dans les échanges avec Desforges-Maillard, Voltaire continuait à louer l'écrivain. C'est ce dédain hein, qui informe la préface et mémoire historique de l'auteur en 1759. La nouvelle version du récit parut une première fois en 1741 comme l'histoire de quelqu'un qui avait voulu amuser le public. Cette nouvelle version d'un récit qui utilisait cette histoire pour écrire une petite œuvre en prose virtuose devient en 1759 une dénonciation virulente de l'institution littéraire, de ses pièges, du pouvoir immérité de ses insiders, y compris sur d'autres terrains que littéraires, mais j'ai pas le temps d'en parler, hein, et de ses mécanismes d'exclusion. L'histoire de la poétesse devient une histoire critique. La ressource littéraire devient ressource intellectuelle, expérience, révélatrice. Alors, il faut que je note que le recueil des poésies de Mademoiselle de Malcré de la Vigne avait paru après le voyage de Desforges-Maillard à Paris et la révélation qu'il était un homme. Vous voyez, la poétesse, elle n'a pas disparu avec le dévoilement de l'écrivain homme qui lui avait donné naissance. Elle a disparu plus tard. Elle a disparu avec la bienveillance des auteurs reconnus pour un nouveau venu qui se révélait très averti en réalité et très capable de faire jeu égal intellectuellement avec eux. Mais cette poétesse, elle a disparu en laissant des traces. Le poète homme, l'écrivain homme, qui avait été une poétesse, je l'annonçais, hein, il écrit volontiers son désir d'être femme. Il l'écrit en prose et il l'écrit en vers. Il l'écrit sans doute en badinant, mais pas seulement en badinant. Je vous lis. Enchantée de tant d'avantageux témoignages que je croyais seulement prononcés par le goût sans prévention, ça il écrit ça en 1741, hein, je ne pus me résoudre à quitter un nom qui me paraissait d'un heureux augure pour ma renommée, un nom de fille. Hein. Cependant, je mourais d'envie d'être fille véritablement, tant je me sentais chatouillée par toutes ces politesses. J'avais lu dans Montaigne qu'une fille devint homme en franchissant un fossé. Je voulus voir si l'expérience serait réciproque. Et alors là viennent des vers. Hein. Je sautais dans mes promenades tous les fossés que je trouvais, en arrière, en avant. Curieux, j'éprouvais, si mon sexe à la fin cédant à mes gambades, je ne deviendrais pas fille encore à mon gré. Je me trompais. Mon sexe était bien assuré. Je m'aperçus alors que le seigneur Montaigne n'était dans ses essais quelquefois qu'un hâbleur qui, pour promener son lecteur, battait avec lui la campagne. Alors, on a là une variation sur la désillusion littéraire, hein, puisque le goût sans prévention n'existe pas. Hein. Le goût, il est nourri par les préjugés. Hein. C'est aussi une variation sur la désillusion philosophique. Montaigne, c'est un menteur. Pourquoi pas les autres philosophes, hein. C'est aussi un pastiche de récits d'expériences scientifiques. Mais c'est également le récit d'un trouble de genre. Un trouble de genre qu'on voit aussi se dire, je crois, quelques pages plus haut dans le même texte de 1741. Je vous relis cet autre passage. Les abbés et les officiers m'écrivirent des tendresses. Plusieurs auteurs m'envoyèrent leurs œuvres et je vis ma petite bibliothèque s'enrichir de présents aussi curieux qu'honorables. Puis des vers, de tendres céladons que sur la double cime, c'est le Parnasse, hein, le dieu des vers combla de ses dons immortels, brûlés sur mes chastes autels, l'encens délicat et sublime de leurs hommages solennels. Oh, qu'au milieu de ces honneurs, j'eusse aisément offert la moitié de ma vie pour éprouver du sort de Tirésie les alternatives douceurs. Alors, fin de citation. Hein. Alors, Tirésie, hein, c'est le devin Tirésias. Selon la mythologie grecque, hein, raconte que le devin Tirésias avait été une femme dans une vie antérieure et qu'il s'en souvenait. C'était un don des dieux. Il pouvait se souvenir qu'il avait été une femme. Et il pouvait ainsi dire que le plaisir sexuel des femmes était supérieur à celui des hommes. Ce qu'écrit ici Desforges Maillard, hein, la poétesse redevenue poète, et qui, je crois, se souvient d'avoir été poétesse, c'est le désir de goûter alternativement les plaisirs que goûtent les femmes et ceux qui sont le partage des hommes. Alors, bien sûr, hein, Desforges Maillard dénonce aussi, dans ce passage, quelque chose comme l'excitation factice, tentatrice, corruptrice, suscitée et maintenue par l'activité littéraire. Mais il écrit bel et bien, et je crois que je peux dire qu'il l'écrit parce qu'il le réécrit. Il l'écrit à plusieurs reprises, je pourrais lire d'autres passages, j'ai pas le temps. Il écrit aussi l'envie de ne pas être assigné à l'identité d'homme qu'il vient de révéler, dont il a fait une arme. Je vais terminer sur deux points. Alors, les récits de 1741 et de 1759, excusez-moi, contiennent aussi des passages où l'on voit que Desforges Maillard comprend les filles qui s'échappent de leur famille, qui aspirent à la liberté, qui se travestissent, qui bravent la police et le risque d'être prises pour des prostituées, voire de devenir des prostituées. Lors de son séjour à Paris, raconte-t-il sans se justifier d'ailleurs, il a participé à plusieurs dîners habillés en femmes. Lors de l'un de ces dîners, il avait été placé auprès d'un militaire, un capitaine de dragons, qui au bout d'un moment remarqua sa barbe naissante. Et il est beaucoup question de barbe dans les récits de Desforges Maillard. « Mademoiselle de Malcré, dit ce capitaine, a bien de l'air d'un joli dragon que j'ai dans ma compagnie. Hein » Vous voyez que l'homme travesti suscite l'intérêt sexuel des hommes en tant qu'homme, rendu visible comme tel par sa barbe, en tant que travesti, en tant qu'homme dont la féminité trouble. Il suscite aussi la parole sur ses émotions qu'on peut dire queer. Il les écrit en tout cas. Je voudrais vous lire un autre passage très intéressant pour ça. Monsieur Piron, dont il n'est personne qui ne connaisse les talents sublimes, enjoués et naturels, ne se mit point au nombre des amants de Mademoiselle de Malcré, mais ce déguisement fournit à son imagination le sujet de sa métromanie, comédie admirable, dans laquelle il me met en fort bonne compagnie. J'étais dans le parterre à la première représentation de cette pièce. On s'entretenait de moi et de mes ouvrages, sans me connaître, les uns en bonne part, les autres différemment. Je les écoutais avec un flegme philosophique, chacun ayant la liberté de se façonner à son gré un sentiment qu'il est pareillement le maître de produire. Il y avait d'un autre côté un homme d'esprit de la ville de Nantes avec laquelle j'avais été liée dès le collège. Il prêtait l'oreille à ce qu'on disait de moi, et se mêlant à la conversation, Messieurs, leur dit-il, je suis fort ami de cette demoiselle Malcré dont vous parlez. Nous avons même couché ensemble plus d'une fois. Mademoiselle de Malcré, répondit l'un d'eux, est donc une fille d'une vertu. Arrêtez, reprit mon ami. Nos nuits ont été aussi chastes que celles que passaient ensemble Socrate et Alcibiade, quand le même lit recevait le maître et le disciple, et le bienheureux Robert d'Arbrissel, ne fut jamais plus continent quand, pour s'éprouver dans un nouveau genre de martyr, il couchait entre deux jeunes nonnins, fraîches comme Hébé et belles comme Vénus. Fin de citation. Alors ce passage, c'est évidemment aussi une satire classique de la sexualité des moines et des religieuses, de la libido catholique, mais il n'est pas que cela. Je crois qu'on peut dire que factuellement, la femme poète a permis à Desforges-Maillard de mettre en écriture des désirs non normés. Des désirs non normés et aussi des sentiments. Alors, dans les poèmes de Desforges-Maillard, on trouve des poèmes d'amour pour différents amis qui étaient des hommes, en particulier pour un mathématicien, mais je passe. Alors, évidemment, l'amitié masculine à l'époque moderne s'écrit volontiers, on le sait, avec les mots de l'amour. Mais Desforges-Maillard, qui met aussi dans son recueil beaucoup de vers d'amour pour sa femme, alors que pour le coup, au XVIIIe siècle, l'expression poétique de l'amour conjugal est très rare, très peu à la mode. Mais Desforges-Maillard donc, va, me semble-t-il, plus loin que d'autres dans cette écriture amoureuse de l'amitié, qu'il écrit de la même manière que ses poèmes s'adressent à des amis femmes ou à des amis hommes. Je voulais vous faire une citation, mais je coupe, pour en arriver à mon dernier point et à ma conclusion. Si vous voulez, je pourrais vous lire des passages très frappants pour ça. Alors voilà, ce poète qui avait été une poétesse et qui, je crois, n'a pas tout à fait cessé de l'être, il a aussi donné de la place dans son recueil à une autre poétesse, sa femme. En effet, le recueil des œuvres en vers et en prose de M. Desforges-Maillard contient plusieurs poèmes par Mme Desforges-Maillard. Il y a un poème adressé à Titon du Tillet, peu importe, mais il y a aussi un poème sur la naissance de princesses jumelles dans la famille royale. Desforges-Maillard échange des vers avec sa femme, il montre sa femme échangeant des vers avec d'autres hommes, des vers badins qui ne le mettent pas nécessairement en valeur lui, des vers sur le plaisir. Il publie une autre Desforges-Maillard poète que sa propre présence dans le champ littéraire avait probablement aidé à publier dans un premier temps ses vers dans le Mercure de France, ses vers sur la naissance des princesses jumelles. À moins évidemment qu'on veuille penser que Madame Desforges-Maillard est une autre itération de Mademoiselle de Malcré de Lavigne. Quoi qu'il en soit, on ne peut pas s'empêcher de remarquer qu'en regardant autour de Desforges-Maillard, à partir de lui, on voit tout à coup beaucoup de femmes poètes. Et notamment dans un livre de 1752 qui est un échange avec un cardinal romain, le cardinal Quirini, auteur de poésie néo-latine, il est question assez longuement d'une femme qui est appelée une nouvelle Sappho, qui est une poétesse suédoise, âgée de 15 ans, donc Quirini, et non pas Desforges-Maillard, évoque pour Desforges-Maillard, à son intention, des vers publiés au devant d'un imprimé issu d'une académie suédoise, ou allemande d'ailleurs. J'en termine là. Il me semble que ce cas montre ce que cela peut faire une femme poète, ce que cela pouvait faire dans la société du XVIIIe siècle, et cela, quoi qu'il en soit, de l'identité de l'individu ou des individus qui a ou qui ont tenu la plume. Je vous remercie.
Merci beaucoup pour cette intervention absolument passionnante qui va, je suis certaine, soulever beaucoup de questions aussi pour compléter tout ce que vous avez pu toutes les deux nous dire. Alors, je vais aller regarder s'il y a déjà des questions, mais en attendant, peut-être que moi, je peux en poser une première. Peut-être d'abord à vous, Dina, puisque vous venez de terminer, c'est un peu plus frais. Moi, j'ai trouvé que c'était absolument passionnant ce propos et puis que ça posait plein de questions autour du genre, évidemment, et d'une historicisation aussi de ces identités de genre. Et je me demandais, parce que pour le coup, vous avez beaucoup insisté sur le fait que ce travestissement littéraire avait été une expérience heureuse, finalement. Est-ce que pour lui, je me demandais s'il y avait aussi... Enfin, comment il avait vécu cette catégorisation tout d'un coup comme muse? Est-ce que pour lui, il y avait aussi un éveil sur des questionnements politiques sur la place des femmes en poésie, ou est-ce qu'il en a retiré finalement qu'une expérience heureuse dans ce retour après à son identité première?
J'ai dit que ça avait été une expérience réussie. Voilà, c'est une expérience réussie du point de vue de la réussite comme auteur, comme autrice de Desforges-Maillard, c'est-à-dire il réussit beaucoup mieux en poétesse qu'en poète. mais et aussi, c'est une expérience réussie au sens où une fois qu'il est redevenu poète, son expérience de poétesse lui sert à continuer sa carrière de manière assez efficace. Mais ce que montre le récit de 1759, c'est que c'est aussi une expérience malheureuse, parce que c'est, pour finir, une expérience de l'exclusion, du retour à une position d'outsider. Pas parce qu'il redevient homme, mais parce que c'est un outsider. Et parce que la manière ouais. même, le fait même qu'il ait réussi, et qu'il ait réussi grâce à une supercherie, finit par se retourner contre lui. Et dans le texte, dès le texte de 1741, mais beaucoup plus dans le texte de 1759, il y a une réflexion extrêmement développée sur une réflexion sociale, extrêmement développée, hein, pour répondre directement à votre question, sur effectivement, on peut dire sur l'ordre social tout entier en fait, et sur exactement ce que fait la littérature comme activité sociale à l'ordre social. Et là-dedans, le fait d'avoir été une femme poète. Lui a en fait fonctionne comme expérience révélatrice pour lui, révélatrice des mécanismes du champ littéraire et de l'existence du champ littéraire sur l'ordre social, et pas tellement sur la position des femmes dans la société. Alors que de la position des femmes sur la société, elle parle beaucoup lorsqu'elle est Mademoiselle de Malcré de Lavigne. Dans la poésie de Mademoiselle de Malcré de Lavigne, il y a une présence de la question du rôle des rôles féminins de la place des femmes et de la possibilité pour les femmes d'écrire. C'est dans l'œuvre de Mademoiselle de Malcré de Lavigne. Dans les écrits de Desforges-Maillard, c'est moins présent. Mais ce qui est présent, c'est ce que j'ai essayé de montrer, c'est pas mal de femmes, malgré tout, et pas mal de questionnements identitaires.
Oui, merci beaucoup. Lénaïque, je crois que tu as dit que tu avais une question, alors je te laisse la poser.
Oui, merci beaucoup pour cette intervention. J'ai trouvé ça vraiment passionnant. Je trouve qu'en fait, ça soulève vraiment plein de questions qui traversent tout ce colloque, en fait. Déjà parce que on a beaucoup plus d'exemples en tête de femmes qui ont pris le pseudonyme d'homme en littérature et que ça fait partie de ces stratégies justement de visibilisation ou de légitimation de leur travail dont on a pu parler. Et aussi parce que du coup, le fait que cette expérience soit retranscrite sur une scène de théâtre, j'ai trouvé que c'était très intéressant parce qu'en fait, dans le théâtre, c'est quelque chose qui est beaucoup plus courant en fait que des acteurs, qui étaient beaucoup plus présents dans l'histoire que des acteurs hommes jouent des rôles de femmes, par exemple. Et donc, je trouve que cette double dimension rend en fait cet exemple d'autant plus intéressant. Et je me demandais, mais je ne sais pas si c'est vraiment une question ou une réflexion que je lance et que... Parce que ça m'intéresse, je me disais comment est-ce qu'on pourrait penser de manière peut-être plus politique ou politiser cette expérience-là. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, si par exemple un homme écrivain prenait le pseudonyme d'une femme...
Il a raison.
Quelles seraient les conséquences? Qu'est-ce que ça signifie Et là, à travers cette expérience-là, donc dans une autre époque, en historicisant... cette expérience, les conséquences sont pas, je pense que c'est pas la même manière de l'interpréter, parce qu'en même temps c'est quand même du coup un moyen d'accès, une sorte de stratégie auctoriale pour obtenir une reconnaissance alors qu'au début il n'en avait pas, etc. Enfin, même si vous avez montré que c'était plus complexe que ça et que c'était pas une expérience uniquement réussie, donc je me demandais juste d'un point de vue plus politique, comment on pouvait interpréter ça vous aviez des idées ou c'est une question que je lance.
Alors, ma question, je vous renvoie. Vous parlez de politique au sens de du. Pour vous, politique, ça voudrait dire dans une lecture actuelle de ce cas. Hein, c'est votre.
Oui, par exemple. En fait, j'essayais juste de transposer ce type de cas dans l'époque contemporaine, de me demander qu'est-ce que ça signifierait en fait, et pour essayer de mieux comprendre cette expérience, même si. En effet, c'est une époque complètement différente.
Il me semble que il faut nécessairement faire un. Enfin, comment dire ce cas n'a de sens que comme cas historique, enfin historiquement situé dans voilà. Les cas de. Enfin, c'est-à-dire qu'il faudrait. Il y a des. Excusez-moi, je ne parle pas très clairement, ça va me revenir. Il me semble que c'est un cas historique qui est un cas d'auto. Enfin, là où je pense que ça apporterait quelque chose dans une mise en perspective contemporaine, c'est que ce qui est très frappant, c'est que ça produit chez cet auteur de poèmes légers au départ une perspective auto-sociologique. C'est-à-dire que la stratégie de contournement inattendue, disons, qui est passée par une figure d'autrice, la stratégie de contournement provoque chez lui, fenêtre chez lui, une conscience et une écriture analytique et sociologique et sociopolitique très forte. Voilà. Et donc, cela alors que ni d'un point de vue de positionnement social, ni d'un point de vue de trajectoire, c'était nécessairement programmé tout ça. Donc, il me semble que c'est cette dimension-là, qui est la dimension la dimension critique, là, au sens, c'est une expérience critique, non pas nécessairement qu'elle rend critique, ça ne le rend critique que finalement en 1759, que tard, peu de temps avant sa mort finalement. Mais c'est une expérience critique au sens que c'est une expérience qui est vraiment révélatrice de mécanismes sociaux. Et je pense que c'est en ça qu'elle pourrait apporter, sinon un modèle, mais du moins un cas comparable, enfin qui pourrait apporter quelque chose hors de son temps. C'est-à-dire, est-ce que ce type de stratégie, alors ce type de stratégie, c'est toujours une analyse en acte. Produire une stratégie de contournement, c'est toujours de l'analyse en acte. Mais est-ce que cette analyse en acte débouche toujours sur la production d'une lecture sociologique critique ou pas? Ma réponse n'est peut-être pas très claire.
Je ne savais pas si Lanaïk, tu voulais dire quelque chose. Merci beaucoup en tout cas pour cette réponse. Peut-être qu'on va poser, alors je vous dis à toutes les deux parce que je pense qu'on va devoir laisser une pause et donc s'arrêter avant que vous ayez le temps de répondre à toutes les questions, que sur le document partagé sur le Framapad, il y a d'autres questions qui vous sont adressées si vous voulez prendre le temps d'aller y répondre par écrit derrière pour permettre aux gens qui sont sur YouTube d'avoir des réponses au-delà du temps du panel qui est toujours un peu restrictif. Moi, j'avais une question pour nous pour, puisque, si je ne me trompe pas, Madeleine Desroches et Catherine Desroches ont une relation de mère et fille. Et je me demandais, puisque vous avez parlé de la pudeur chez l'une et l'autre, s'il y avait une filiation ou la conscience d'une filiation sur le traitement de ce motif de la pudeur depuis Catherine Desroches vers Madeleine, ou si c'était vraiment deux traitements différents de ce motif-là.
Oui, à vrai dire, c'est vraiment intéressant parce que normalement, Madeleine Desroches et Catherine Desroches sont considérées comme une seule personne, des fois, parce qu'elles partagent cette identité commune comme les Dames Desroches. Et aussi leur œuvre, leur seconde œuvre, les missives, sont présentées comme un type de manuel de conduite. C'est-à-dire que normalement, c'est Madeleine Desroches, la mère, qui instruit Catherine, la fille. Et pour cette raison, elle présente un discours. Qui traite un discours commun, qui traite les mêmes thèmes dans la poésie de Madeleine et aussi dans la poésie de Catherine. Et ce qui est intéressant, que quand vous lisez leur poésie avec plus de profondeur, c'est vrai qu'ils ont des discours vraiment distingués. Madeleine parle beaucoup de la violation du corps plus que Catherine parce qu'elles sont vraiment affectées par leur propre expérience. Comme j'ai dit pendant ma présentation, Madeleine est beaucoup plus affectée par les guerres civiles que Catherine. parce qu'elle a une relation plus personnelle de ses propriétés étaient détruites par les guerres. Et comme elle n'avait pas de mari, elle devait lancer un procès qui a duré pendant 13 ans. Et en même temps, elle voulait explorer pendant dans sa poésie son statut comme femme qui a fait imprimer ses œuvres. Comme j'ai dit brièvement dans ma présentation, il y avait cette association entre la promiscuité et faire imprimer les œuvres. Parce que, en fait, faire imprimer les œuvres signifiait rompre le silence. Et le silence était connecté à la chasteté et à la pudeur à la fois. Et donc, ce que je voulais montrer dans ma présentation, c'est que Madeleine, elle voulait détourner l'attention de sa propre impudeur sur les Huguenots. Par contre, Catherine, elle s'intéresse plus à son statut comme fille érudite et dans le cadre de son salon avec sa mère. Donc, c'est pour ça que je mets l'accent sur la connaissance et l'association entre le corps féminin et l'inspiration intellectuelle. Elle répond surtout à les perceptions des participants de son salon. Surtout d'Étienne Pasquier, qu'il était avocat. Et il a créé une collection, un récit de poèmes sur le corps de Catherine. C'était sur une histoire avec une puce qui a atterri sur son sein. Et il a créé beaucoup de blasons avec d'autres participants du salon sur le désir, l'érotisme du corps de Catherine. Et c'est pour ça que le thème principal que j'ai trouvé dans sa poésie, c'est de répondre à la perception masculine de son corps. Il veut ressaisir son corps pour elle. Je ne sais pas si je m'explique bien, mais...
Non, c'est une réponse très complète. Merci beaucoup pour cette réponse. Bon, je crois que malheureusement, on va devoir arrêter maintenant pour se laisser une petite pause. Je crois qu'on va reprendre vers 11h30. En tout cas, merci à toutes les deux pour ces réflexions extrêmement intéressantes. Pour répondre à votre question, Dina, je pense qu'on va vous repartager le lien du document partagé dans le chat pour que vous puissiez, si vous le souhaitez, toutes les deux, continuer de répondre donc aux questions par écrit pour permettre aux gens d'avoir des réponses un peu plus longuement. Donc, petite pause, un peu plus longue quand même qu'hier. On s'améliore. Si on avait fait une semaine de colloque, on aurait fini sur des pauses normales peut-être. Donc, on se retrouve à 11h30 et à tout de suite. Merci encore à vous deux.